France Culture.
Nous nous retrouvons pour le dernier volet de cette passionnante série d'entretiens. Après votre jeunesse, l'écriture de vos livres et vos autres activités professionnelles, nous allons évoquer ce soir le reste de votre vie. Dans « D'après une histoire vraie », vous écrivez « Nous portons tous la trace du regard posé sur nous quand nous étions enfants et adolescents ». On retrouve la même idée dans « Je suis Romane Monnier », publié en 2026. Quelles traces ont laissé sur vous ces regards ?
Oh là là, c'est difficile d'en parler sans aller dans des choses trop intimes, trop personnelles. Bien sûr que ces regards ont laissé une trace en moi. Je pense que c'est la personne que je suis devenue, que vous avez d'ailleurs très bien décrite dans ce tout premier entretien, c'est-à-dire avec pas mal de contradictions, à la fois une forme d'assurance et de timidité résiduelle, avec de la fantaisie et beaucoup de fantaisie que connaissent en général mes amis, et une forme de mélancolie aussi, à la fois une grande confiance en la vie et une anxiété indestructible. Voilà, c'est peut-être cette trace-là, j'ai envie de vous dire d'avoir hérité effectivement de quelque chose que d'ailleurs en partie j'ai tenté de ne pas transmettre à mes enfants. Ça ne marche pas toujours. Il y a malgré tout des choses qui circulent entre les générations un peu malgré soi, et c'est en effet un des thèmes de Romane Monnier.
Vos livres font la part belle à la psyché de vos personnages, Delphine de Vigan. Est-ce qu'un travail thérapeutique ou analytique sur votre psyché vous semble compatible avec l'écriture ? Ou est-ce que vous craignez que cela puisse casser le moteur, tarir la source de votre inspiration ?
C'est une grande question que je me suis posée à plusieurs reprises. Il m'est arrivé par trois fois de faire un travail thérapeutique avec trois thérapeutes différents, mais pas jamais une analyse. Jamais je suis rentrée dans le travail analytique, par peur en effet d'ouvrir la boîte noire et que les choses s'évaporent ou s'envolent, ou en tout cas qu'elles ne puissent plus nourrir mon travail, parce que j'ai quand même vraiment le sentiment que je vous parlais l'autre soir comme ça d'un ça paraît un peu étrange, mais de cet inconscient qui traverse aussi l'écriture. Et ça, c'est quelque chose que je ressens très fortement et que je voudrais préserver. Alors, ça m'est arrivé d'en discuter parfois avec des amis écrivains qui ont fait une analyse ou entamé un travail de longue haleine, qui peuvent dire au contraire, tu verrais, tu aurais accès à plein de choses, ça te permettrait d'ouvrir des nouveaux tiroirs, etc. Mais non, pour l'instant, je ne l'ai pas fait. Mais ça m'intéresse énormément intellectuellement.
Que reste-t-il de votre timidité d'enfant, Delphine de Vigan ?
Elle ressurgit à plein de moments sous une forme un peu de maladresse, on va dire. J'ai tendance à me prendre les pieds dans mon sac à main ou dans des situations de stress. Tout d'un coup, je suis embarrassée par mon propre corps, ma propre voix. Je pense que ça se voit que je suis une ancienne timide. Je peux pas la dissimuler complètement, même si j'ai beaucoup, beaucoup évolué. Et d'ailleurs, si on avait dit à la jeune fille que j'étais, tu parleras devant 500 personnes sans avoir forcément pas dormi depuis une semaine, je ne sais même pas si j'y aurais cru.
Vous dites que vous avez une forte capacité à faire bonne figure. Est-ce que c'est le fruit de votre éducation, Delphine de Vigan ?
Sans doute, oui, en partie, mais oui, c'est vrai. Mais aussi, ça me semble plus élégant, c'est-à-dire que je suis quand même suffisamment réceptive à l'autre et à l'état du monde pour me rendre compte qu'il y a toujours un peu pire que ce qu'on est en train de vivre. Donc, je trouve que c'est... J'essaye en tout cas de faire bonne figure, oui. Je n'aime pas me plaindre, je préfère montrer le meilleur de moi-même.
Dans votre hypersensibilité, Delphine de Vigan, vous voyez une force et un handicap. En quoi ? Pourquoi ?
Oui, une force, c'est pour moi indéniable, c'est-à-dire que je pense vraiment que ça a contribué à faire de moi à la fois la personne et l'écrivaine que je suis, ça j'en ai l'intime conviction, c'est-à-dire que ça crée une espèce d'attention, de vigilance, d'hyper-perception qui, ma foi, est fort utile, en tout cas quand on prétend écrire et raconter quelque chose de l'âme humaine, ce qui est mon cas, parce que c'est ce qui m'intéresse aussi dans l'écriture, et c'est raconter ce que ça veut dire être humain, comment nous sommes reliés les uns aux autres, etc. et un handicap parce que parfois c'est très encombrant, parce que bah, parfois c'est comme une espèce de larcène un peu parasite qui empêche aussi de faire des choses, qui peut-être d'ailleurs parfois nous me trompe. Enfin, ça n'est pas seulement une hyper lucidité, ça peut sans doute être par moment quelque chose qui me trompe. Voilà, je travaille là-dessus, mais je m'en suis vraiment bien accommodée maintenant, et y compris, comme je vous disais à l'instant, cette espèce de maladresse qui me rattrape parfois, et voilà, c'est pas bien grave aujourd'hui. Je suis aussi, en vieillissant, je suis moins inquiète de l'image que je renvoie à moi-même, ce qui était quand même une préoccupation plus importante quand j'étais jeune fille.
Vos doutes et vos angoisses quant à l'écriture s'étendent-ils à d'autres domaines de la vie, Delphine de Vigan?
Malheureusement, oui. Enfin, j'ai envie de vous dire, c'est surtout mes doutes et mes angoisses de la vie qui probablement nourrissent à la fois l'écriture et les doutes de l'écriture. Oui, je suis quelqu'un d'extrêmement anxieux. Ça s'est manifesté à des degrés divers à différents moments de ma vie. Là aussi, je pense plutôt avoir travaillé dans le bon sens par rapport à ça. Mais ça, la question de l'anxiété, elle est omniprésente. Elle reste très présente. Et ça, pour le coup, j'ai vraiment le sentiment que c'est quelque chose dont on hérite, et en partie, en grande partie, et que voilà, dont je n'ai pas forcément toujours su quoi faire. Mais bon, j'espère qu'à la fin de ma vie, je pourrais me dire « Oh là là, c'est fini
!» Je vous soumets la même question au sujet de votre détermination, Delphine de Vigan. Vous en avez administré la preuve dans l'écriture. Est-ce qu'elle est aussi puissante dans les autres secteurs de votre vie ?
Oui, sans doute oui. Enfin, en tout cas, c'est souvent l'image que les gens me renvoient. Je pense qu'elle est juste. D'ailleurs, l'image que les gens ont de vous, elle n'est pas toujours juste. Mais en la matière, oui, c'est vrai. Je pense que je suis quelqu'un d'assez déterminé. Et que ça m'a beaucoup aidé à avancer, à construire des choses, à m'y tenir parfois. Et par exemple, j'évoquais hier ou avant-hier les difficultés que j'ai rencontrées dans l'écriture de mon dernier roman. Et là, il n'a été question que de ça, au fond, que de détermination et de discipline pour retrouver le souffle que j'avais perdu. Ou en tout cas d'avancer dans cette obscurité en me disant tant pis, malgré la frustration, malgré l'insatisfaction, il faut que j'avance et après j'en jugerai. Ce dont j'ai pris conscience à un moment donné, c'est que ça aurait été beaucoup plus douloureux pour moi d'abandonner en cours de route au motif que je n'étais pas satisfaite par ce que j'étais en train d'écrire que d'aller au bout. C'est-à-dire passer encore plusieurs mois à m'acharner sur le texte. M'acharner, c'est pas le mot, mais en tout cas à avancer malgré cette insatisfaction. Et de me dire, une fois que c'était terminé, ok, c'est raté. Bon, mais ça aurait été moins douloureux que d'avoir à renoncer en cours de route. Mmh. Et oui, ça c'est sûr, je ne renonce pas facilement.
En dehors de l'écriture.
En dehors de l'écriture, c'est la même chose.
Mmh. Ouais. Votre premier roman non paru était humoristique, vous avez réalisé une comédie dont nous avons parlé hier soir. Vous glissez quelques points d'humour parfois dans vos livres. Quelle place a l'humour, la fantaisie dans votre quotidien, dans votre vie ?
Une très grande place, franchement. J'accorde beaucoup d'importance à l'humour. Déjà, j'aime beaucoup rire. Je vais beaucoup, par exemple, au cinéma, je vais beaucoup voir des comédies. J'aime beaucoup les humoristes. Les comptes que je suis sur Instagram, moi-même je ne suis pas présente sur Instagram, mais j'ai un compte qui me permet d'observer, enfin de m'inscrire, de m'abonner, comme on dit, à d'autres comptes. Et je suis beaucoup abonnée à des comptes d'humoristes. J'ai vraiment une grande admiration pour les humoristes, pour cet exercice qui consiste à faire rire. Je trouve ça absolument incroyable. Oui, dans la vie, c'est vrai que je suis toujours partante pour rire. C'est important, et je trouve que là aussi, il y a une manière souvent de... En tout cas, dans l'écriture, ça a été souvent une manière de mettre un petit peu le drame à distance. Alors, il y a des textes dans lesquels l'humour n'est pas du tout perçu, c'est assez étonnant. Par exemple, « Rien ne s'oppose à la nuit », pour moi, il y a des passages du texte qui sont écrits pour être drôles. Mais quand je disais ça à l'époque de la parution du roman, les gens me regardaient un peu consternés, l'air de dire « la pauvre, elle pense que c'est drôle », mais Oui, je crois que les lecteurs étaient tellement submergés par autre chose qu'ils ne pouvaient à ce moment-là pas forcément distinguer l'humour. Mais je me souviens être allée en Allemagne avec le livre, et souvent en Allemagne on fait des book tours, donc des lectures, l'auteur français est accompagné d'un comédien ou d'une comédienne allemande et on lit, moi je lisais en français et j'avais fait ce tour avec une comédienne allemande qui s'appelle Maria Schrader, qui est une très très grande comédienne allemande, qui faisait rire la salle en lisant des extraits du livre, et là je me disais, ah bah je suis pas complètement folle, c'est...
Enfin
Enfin, voilà, mais ceci dit, voilà, je sans doute pas un humour aussi évident que je le souhaiterais.
Delphine de Vigan, que représente la maternité dans votre parcours, dans la femme que vous êtes ?
Une part énorme, ça a été pour moi vraiment quelque chose de très important. D'être mère, ça a été un projet très jeune. J'avais cette idée que je voulais être mère. Et donc, comme si je pressentais qu'il y avait en tout cas pour moi, et ça n'est évidemment pas une règle absolue, mais en tout cas que pour moi, ce serait une source infinie de joie, d'épanouissement, d'ancrage, de stabilité d'une certaine manière. Et ça a été le cas. J'ai vraiment... Oui, je peux dire que c'est vraiment peut-être la grande aventure de ma vie, c'est la maternité.
Et quelle mère avez-vous été et quelle mère êtes-vous ?
J'ai été et je suis sans doute encore une mère tout à fait imparfaite, je l'espère, parce qu'il paraît que c'est pas bien d'avoir des parents parfaits. Mais non, bien sûr, une mère qui avait aussi ses propres failles et malheureusement, mes enfants en ont sans doute fait les frais. Mais en tout cas, une mère très aimante et très bienveillante. Et aujourd'hui, mes enfants sont de jeunes adultes. Je crois que je peux le dire sans me tromper, une très belle relation avec eux. Ils ont une très belle relation avec moi parce que c'est vraiment quelque chose qui c'est ce qui m'a émerveillée d'ailleurs tout au long de cette histoire, c'est que c'est quelque chose qui se fabrique à plusieurs, quoi, cette rencontre, qu'on rencontre son enfant. Moi, j'ai eu vraiment le sentiment que mes enfants m'avaient beaucoup aidée, enfin qu'ils ont contribué à ce que nous vivons aujourd'hui, à cette merveilleuse rencontre, ils y ont largement contribué. Et je sais que ça n'est pas toujours le cas. Je pense que j'ai eu de la chance aussi.
Quelles valeurs avez-vous à cœur de transmettre à vos enfants ?
J'ai le sentiment de leur avoir transmis pas mal de choses de ce côté-là. Je ne suis pas la seule, parce que leur père aussi. J'en parlais, il me semble, dans le premier soir ou le deuxième soir, un certain sens moral, en tout cas une préoccupation de faire bien les choses, d'être au bon endroit, d'être juste, d'être soucieux de l'autre. Je les trouve tous les deux extrêmement... extrêmement généreux, et je trouve que ce sont vraiment ils sont beaux, quoi. Ils sont beaux à l'intérieur, et j'espère avoir contribué à ça, mais je suis très émerveillée des adultes qu'ils sont devenus. Je suis sans doute pas la seule à leur avoir transmis ça, mais je crois que je peux quand même en revendiquer une petite partie, un sens, oui, hein, ça. Et puis je vois bien que tous les deux, d'ailleurs, l'un comme l'autre, se posent pas mal de questions sur l'époque dans laquelle ils vivent, évidemment, comme tous les jeunes, mais aussi sur comment l'aborder de manière éthique.
Quel rôle ont joué vos compagnons dans votre vie ?
Un rôle très important. L'un comme l'autre, si je parle des deux grandes histoires que j'ai eu la chance de vivre et que j'ai la chance de vivre. J'ai eu aussi cette chance de rencontrer deux hommes extrêmement différents, mais tous deux ont contribué, contribuent à faire de moi la personne que je suis. J'aime bien, je sais pas du tout, je serais bien incapable de définir ce que c'est que l'amour, et c'est évidemment différent de rencontrer quelqu'un à 20 ans ou à 40 et quelques années, ce qui a été le cas ensuite. On n'est pas du tout fait de la même chose, on se connaît pas du tout de la même manière. Ce premier amour, c'est un petit peu comme, on est un peu comme deux grands enfants un peu cabossés qui se rencontrent, et c'est pas forcément très simple de que cette histoire dure toute la vie, mais en tout cas c'est une histoire à laquelle je tiens énormément. Et ensuite, ce que j'aime, cette idée de quand on est justement un peu plus âgé, un peu plus mûr, de pouvoir vraiment partager intellectuellement des choses. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de la connivence, qui me semble assez merveilleux.
Delphine de Vigan, les amitiés ont une grande importance également pour
Oh là
vous?
là, énorme ça aussi. Énorme, j'ai la chance d'être entourée de quelques amies très, pour certaines très anciennes, d'autres un peu anciennes, d'autres un peu moins anciennes, mais en tout cas qui comptent énormément pour moi. Oui, c'est aussi très très important. J'ai vraiment. Et là aussi, ce qui est fabuleux, c'est aujourd'hui de constater à quel point elles sont différentes. Elles sont différentes entre elles sont différentes de moi. Et cette volonté que nous avons les unes les autres de préserver ce lien, et qu'il est d'ailleurs, ce qui m'émerveille aussi, c'est qu'il tienne malgré justement ce qui m'est arrivé, qui aurait pu nous éloigner. C'est-à-dire que tout d'un coup, quand comme ça, dans des cercles amicaux, il y a quelqu'un qui prend un peu la lumière, ça peut fausser les rapports, ça peut, même si moi j'ai l'impression que c'est moi, quoi. Si quand les gens commencent à me regarder un peu différemment, j'ai envie de dire mais c'est moi, regarde, c'est moi. Et ben justement ces amis, en tout cas, je n'ai jamais eu ce sentiment-là. Et c'est précieux aussi d'avoir autour de soi des gens qui sont capables de vous dire quand vous déconnez, et c'est le cas. Non, enfin, voilà, ce que peut-être, ce qui ressort de tout ça, c'est l'importance que j'accorde à la relation à l'autre. Il y a aussi évidemment ma sœur et mon frère. C'est très important tout ça pour moi.
Et quand vous évoquez des amitiés, c'est des amitiés féminines qui vous nourrissent davantage, Delphine de Vigan?
Oui, c'est vrai que pour l'essentiel, elles sont féminines. J'ai quelques amis hommes. Et qui compte aussi, hein, beaucoup, mais pour l'essentiel, en tout cas, les amitiés qui viennent de l'enfance, de l'adolescence, de l'entrée dans l'âge adulte, ce sont des amitiés féminines, oui.
Comment vous expliquez qu'elles soient plus prévalentes?
Je pense quand même qu'il y a des choses qu'on peut se dire entre femmes, qu'il y a une facilité quand même dans la. C'est quelque chose qui m'a toujours frappée, à quel point entre femmes, on est capable assez vite de se débarrasser de l'anecdote et du superficiel pour aller à l'essentiel. La manière dont les femmes en général, hein, pas seulement moi, sont capables de confidences parfois très intimes, très, enfin voilà, de dire l'important, quoi, la capacité que nous avons de dire l'important. Et puis aujourd'hui, voilà, tout ce qui se passe autour de la parole des femmes, je trouve ça vraiment passionnant. Ça, c'est vraiment une chose. Je pense très souvent à ma mère qui est morte en 2008, et qu'est-ce que j'aurais aimé qu'elle puisse voir et vivre l'époque que nous vivons en ce moment. Parle souvent de manière un peu négative des réseaux sociaux, mais pour le coup, je pense que ça a vraiment contribué, au contraire, à libérer une parole, en tout cas à rendre entendable, recevable la parole des femmes. Et ça, je trouve ça vraiment incroyable. J'aime beaucoup ce qui se passe en ce moment de ce côté-là.
Vous dites que vous avez un rapport compliqué en groupe et en même temps vous avez le goût des fêtes, des vacances en bande, Delphine de Vigan?
Oui, mais là, c'est pas le groupe, si vous voulez, c'est les amis. C'est pas pareil.
Ça change tout.
Ça change tout. Non, effectivement, j'ai eu un groupe d'amis. D'amis très proches avec lesquels nous sommes partis, je l'ai raconté dans un de mes romans. D'ailleurs, on partait tous les étés ensemble avec nos enfants. Donc au départ, on était quatre couples et nous, voilà, on a chaque été dans un endroit différent. Chaque été, on louait une maison différente. Donc on a été dans pas mal d'endroits. Certains de ces couples se sont séparés, comme c'est souvent le cas dans la vie. D'autres non. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui est resté quand même très fort de cette. On appelait ça la maison des vacances. Donc aujourd'hui, nos enfants, qui sont de jeunes adultes, sont restés aussi en lien les uns et les autres. Et comme des cousins, un peu, en fait, qui se seraient vus tous les étés. Et j'aime beaucoup cette. On a plein de souvenirs absolument incroyables parce que les enfants faisaient des films. Enfin voilà, on a fait beaucoup de choses avec eux. Comme dans toutes ces histoires, des private jokes et des. Voilà.
Delphine de Vigan, dans vos romans, les dimensions sociétales sont importantes. Est-ce que ça implique pour vous des engagements auprès d'associations?
Oui, tout à fait. Il y en a eu par le passé, autour notamment d'ailleurs de la réinsertion de personnes qui souffrent de troubles psychiatriques. J'ai longtemps animé un atelier d'écriture dans ce cadre. Plus récemment, non, parce que c'est aussi depuis au moins une dizaine d'années. J'ai aussi fait pas mal de choses en détention avec l'association Lire pour en sortir, dont Léla Slimani est la marraine. C'est une association qui est extrêmement engagée pour amener la lecture en prison. Et donc, là, avec eux, j'ai animé pas mal d'ateliers d'écriture, notamment récemment, il y a quelques temps, un atelier d'écriture au quartier de semi-liberté de Nanterre. Et ça, je continuerai à le faire. Là, je suis en contact pour être la marraine d'un festival qui vise aussi à la déstigmatisation des troubles psychiatriques, qui est organisé par l'hôpital psychiatrique de Villejuif. Voilà, toutes ces questions, on va dire, en particulier autour de la fragilité, en fait, ça me paraît important d'essayer de rendre un petit peu ce que j'ai le sentiment de recevoir comme ça, et donc de le faire à mon niveau, en essayant soit de porter une voix qui ne porte pas beaucoup, soit d'animer des ateliers d'écriture ou faire des rencontres littéraires. Là, je vais animer un atelier d'écriture aussi, justement dans un hôpital de jour auprès de jeunes adultes qui ont des troubles psychiatriques.
Delphine de Vigan, vous dites que vous avez peut-être écrit parce que vous ne saviez pas jouer d'instrument de musique. Quelle place occupe la musique dans votre vie ?
Oh, je continue d'en écouter pas mal. C'est vrai que j'aurais beaucoup aimé être musicienne, en tout cas savoir jouer d'un instrument. Bon, voilà. Ça ne s'est pas fait. Récemment, j'ai été contactée, dans les dernières années, à deux reprises par l'Orchestre National d'Île-de-France, qui deux fois m'a commandé des textes sur des musiciens. Une première fois, c'était sur la 5e symphonie de Mahler, et la deuxième sur la 7e symphonie de Bruckner. Et donc, à chaque fois, il s'agissait d'écrire un texte de 12 minutes, complètement inédit, qui n'existe d'ailleurs nulle part que dans la mémoire des gens qui ont assisté à ces concerts. Que je lisais en amont du concert. Et ça, c'était super parce que ça a été vraiment l'occasion de me replonger justement un peu dans la musique classique que j'écoute moins. J'écoutais beaucoup quand j'étais jeune fille. Et là, c'est vrai que ces derniers temps, j'écoutais moins de musique classique. Et là, à cette occasion, ça m'a replongé un petit peu. J'adore l'orchestre symphonique, quoi. C'est incroyable. Et puis se trouver comme ça, là, pour le coup, on parlait de la scène, se trouver sur scène avec un orchestre symphonique derrière vous, c'est une sacrée sensation.
Vous êtes écrivaine, Delphine de Vigan, donc forcément grande lectrice ?
Oui, franchement, oui. Là aussi, un peu comme tout le monde, il y a des périodes où je lis plus ou moins. Mais non, en général, j'ai toujours un livre en cours. Ce qui est sûr, c'est que je fais quand même vraiment le constat, et pourtant Dieu sait si je lutte contre, que le téléphone grignote sur mon temps de lecture. Et pourtant, comme je vous disais, je ne suis pas présente sur les réseaux, mais c'est quand même, je m'informe aussi avec le téléphone, je suis abonnée à plusieurs médias, etc. Oui, c'est-à-dire que ce réflexe qui consiste le soir un peu fatigué à prendre son téléphone en main et commencer à regarder un petit peu ce qui s'est passé sur le téléphone. Moi, ça m'arrive très souvent de me dire je regarde 5 minutes et après je lis. Et puis constater qu'une demi-heure, voire pire, sont passées, est passée, et puis finalement ne plus avoir le courage de lire. Ça, franchement, ça m'arrive. Et je lutte contre ça. Ça m'attriste tellement de voir tous ces gens penchés sur leur téléphone dans le métro. Oh, quelle image, c'est.
Et non plus sur leur livre.
Et non plus sur leur livre, ouais.
Et quels sont vos auteurs de prédilection ?
C'est la marche du monde. Oh là là, il y en a tellement. Toujours un peu de mal à répondre à cette question parce que ça dépend vraiment des moments et. Après je me dis mais j'ai pas dit un tel etc. Ce que je peux vous dire c'est que je lis beaucoup de littérature étrangère aussi, pas seulement de la littérature française. J'aime beaucoup lire, ceci dit, certains de mes de mes comparses, je ne sais pas comment les appeler, collègues.
Lesquels?
Je parlais de Natacha Appana, par exemple, Lola Lafont, Emmanuel Carrère, Laurent Mauvignier, bien sûr. Qui je peux citer d'autres, Marie-Hélène Lafont, j'aime beaucoup. Il y a des auteurs que je suis, puis il y en a d'autres que je découvre. Annie Ernaux, je l'ai souvent dit. Mais je reviens quand même assez régulièrement aussi à la littérature étrangère. En plus, là, c'est vrai que ces derniers temps, j'ai quand même une espèce d'envie de fiction, de besoin de fiction dans mon travail, hein, qui va un petit peu peut-être à rebours. Quand on voit parfois certaines rentrées littéraires où il y a quand même vraiment beaucoup de textes autobiographiques ou biographiques. Donc parfois, ce besoin de fiction, je le trouve plus facilement dans la littérature étrangère.
Delphine de Vigan, que vous apportent les années qui passent ?
Alors, de la sagesse, une forme de sagesse sans doute. En tout cas, il me semble que je suis... j'arrive de mieux en mieux à gérer justement, en tout cas à mettre la bonne distance entre l'extérieur et moi-même. Et ça, c'est plutôt assez agréable. Par ailleurs, je me passerais bien de vieillir, hein, comme tout le monde, c'est-à-dire que c'est quand même un constat, ça c'est sûr, une préoccupation parfois. Je discutais il n'y a pas longtemps avec une de mes tantes, une des sœurs de ma mère que j'aime énormément, et elle me racontait, j'espère qu'elle ne m'en voudra pas de raconter ça, elle me racontait qu'elle avait une conversation avec son mari où elle lui disait il faut qu'on réfléchisse à quel genre de vieux on veut être. Et j'ai trouvé ça magnifique et je me suis dit oui, c'est vrai, c'est une vraie question, quel genre de vieux on veut être, si tant est qu'on ait la chance d'être vieux d'ailleurs, parce que on ne sait pas finalement, hein, si on... jusqu'où on sera vieux. Enfin, à partir de quand on est vieux, d'ailleurs, c'est une vaste question. Mais bon, voilà, ça m'occupe aussi. Voilà.
Et alors, quelle vieille voulez-vous être ?
J'aimerais bien être une vieille pas trop emmerdante, pour dire les choses, parce qu'en fait, je plutôt dynamique, bien sûr, et en aussi bonne santé que possible, mais ça, c'est l'évidence. Mais en tout cas, par rapport à mes enfants, souvent, je leur dis, faudra me dire. Il y a deux choses que j'aimerais vraiment qu'on me dise. C'est un, il faut arrêter d'écrire. Là, c'est fini. Et bon, c'est pareil, hein, il y a pas d'âge. A priori, on dit il faut s'arrêter. Il y a des auteurs qui écrivent encore à 80 ans des textes magnifiques. Mais moi, j'ai pas du tout envie de me répéter. J'ai pas envie de tourner en rond. J'ai pas envie de publier pour publier. Peut-être qu'à un moment donné, on est quand même un peu rattrapé par cette faiblesse-là, de se dire finalement c'est pas si mal. Je voudrais pas écrire, en tout cas pas publier le livre. Écrire, c'est une chose, mais ne pas publier le livre de trop. Et j'aimerais bien aussi que mes enfants soient capables de me dire, écoute là. T'es pénible ou tu radotes ou oui, enfin voilà. J'espère qu'ils pourront le faire.
Merci beaucoup Delphine de Vigan pour ces entretiens. C'est un grand plaisir de passer cette semaine avec vous. C'était À Voix Nue, chargée de programme Daphné Abgral, réalisation Luc-Jean Reynaud, prise de son Martin Troadec, une série de Corinne Renoux-Nativelle, disponible sur le site et l'application de Radio France.
Merci à vous.